Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, écoute les artistes tous les soirs pendant une heure. Et ce soir, rencontre avec l'auteur et metteur en scène, Gérard Watkins.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Gérard Watkins.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Nous proposons donc, en 1928, une nouvelle définition de l'hystérie. L'hystérie est un état mental plus ou moins irréductible, se caractérisant par la subversion des rapports qui s'établissent entre le sujet et le monde moral duquel il croit pratiquement relever. En dehors de tout système délirant, écrivent André Breton et Louis Aragon. En 2019, la scène représentera successivement une partie de la Grèce plusieurs siècles avant notre ère, une forêt et une église médiévale, un centre de thérapie alternative qui accueille des patients, un homme et une femme, atteints tous deux de conversion hystérique. Un plateau, cinq portes au fond de la scène, par lesquelles cinq acteurs entrent et sortent pour incarner et traiter un mot, une maladie ancienne, l'hystérie. Quel moyen peut se donner le théâtre pour représenter l'histoire, les formes et les effets d'une pathologie en définitive peu connue du public qui est rassemblée pour la voir? Bonsoir Gérard Watkins.
Bonsoir.
Hystéria, c'est le titre du spectacle que vous avez écrit et mis en scène. On peut le voir au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 14 avril. Bienvenue, merci d'être là.
Merci.
Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de l'hystérie au tout début de ce projet-là?
Alors à peu près une dizaine de pistes différentes qui ont validé mon intérêt sur l'hystérie. Une des premières, c'est, je crois que c'est le théâtre d'Ibsen, que j'étais en train de jouer le petit Eyolf. Je faisais aussi travailler les élèves de l'ERAC sur Hedda Gabler. Et on est tombé assez souvent sur le mot d'hystérie et je me suis rendu compte en fait que personne autour de moi ne connaissait la définition du mot à part son expression galvaudée, c'est-à-dire ce qu'on dit d'une femme par exemple quand elle essaye de parler avec véhémence d'un sujet qui lui tient à cœur et on dit qu'elle est hystérique. Bon, ça a pas grand-chose avec la valeur du mot, donc je me suis renseigné sur ce que c'était et aussi les scènes de violence conjugale parce qu'il y avait un phénomène.
C'était votre spectacle précédent.
C'était mon spectacle précédent. Dans lequel il y avait un phénomène, le phénomène qui a été étudié par Muriel Salmonac de la sidération, qui m'avait beaucoup intéressé sur comment un trauma peut disparaître, comment un système de défense peut geler la réception d'un événement traumatique et ça peut se nicher dans le corps, dans le cerveau quelque part, très loin. Et donc c'est toutes ces interrogations là qui m'ont mené vers l'hystérie, voilà.
Et à quel moment vous êtes dit qu'il y avait matière pour un spectacle?
Bah assez rapidement. En fait, l'hystérie est presque une définition du théâtre. L'hystérie va constamment se transformer par rapport au regard de ce qui est en face. C'est une maladie qui s'exprime par le corps parce qu'il y a une parole qui a pas pu être dite quelque part et qui provoque une forme d'attitude d'ailleurs dont parle Breton parce que c'est pas une définition médicale, c'est une définition artistique ou philosophique mais qui est tout à fait valable en fait pour le théâtre. Pour moi, c'est la définition même de quelque chose de subversif qui refuse le monde tel qu'il est et qui va se mettre à ne pas y croire et à emmener une focale vers quelque chose d'autre, vers un espèce d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'était pour moi un sujet théâtral. En plus, comme ça s'exprime par le corps, il n'y a pas plus théâtral évidemment que ça pour les acteurs. Mais je crois aussi que aussi dans l'histoire, vous savez, sur les sons du mardi de Charcot, Sarah Bernard allait voir toujours ce qui se passait à la Salpêtrière.
Charcot qui donc exposait les hystériques à l'hôpital de la Salpêtrière, oui, à Paris au 19e siècle.
C'est ça, c'était les fameuses leçons du mardi où il s'est retrouvé tout d'un coup devant son sujet par hasard parce que Il fallait rebâtir la salpêtrière, faire des travaux, et il y avait des centaines de femmes qui étaient parquées dans des situations absolument déplorables et il fallait tout d'un coup essayer de trier ces femmes pour les répartir dans d'autres endroits, et il est tombé sur son sujet à ce moment-là. D'où les leçons du mardi où il présentait en fait, où il déclenchait par l'hypnose des crises d'hystérie en live, et il montrait un peu, il présentait, il exhibait ces femmes et qui se retrouvaient tout d'un coup devant une focale, et donc comme tout hystérique aussi, surreprésentait évidemment leur trauma en question. Et pour moi, c'est un espèce de rapport là que j'ai cherché avec ce spectacle là d'une certaine façon, parce que dans mes textes d'histoire dedans, je vais pas parler de Charcot, c'est trop vaste, je pourrais pas parler de Charcot en 10 minutes, ce serait absolument impossible et grotesque. Mais du coup, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les leçons du mardi, de remettre l'hystérie au goût du jour, parce que tout le monde, plus personne ne sait vraiment ce que c'est. Je crois que ça a été à peu près en vogue dans les années 70, 80, où on se réintéressait à cette maladie-là, puis ça a disparu. Donc c'est aussi la défense d'un mystère.
Une maladie comme mystère.
Le maladie comme mystère et l'être humain comme mystère. C'est-à-dire que le théâtre est aussi là pour... et ça aussi, en ça que c'est un sujet éminemment théâtral, c'est que le théâtre est là aussi pour montrer le mystère humain, pour être incroyablement complexe et pas être dans des narratifs basiques et linéaires comme on a maintenant beaucoup l'habitude de voir. Et le théâtre permet vraiment de rentrer dans une humanité d'une autre manière, de manière plus profonde et plus mystérieuse. Et c'est vraiment pour défendre aussi ce principe-là du théâtre, et ce principe aussi du mystère, de dire, non, on va pas pouvoir classer cette maladie maintenant comme on essaye de le faire avec le DSM-5, c'est-à-dire tout d'un coup de dire que c'est des petites, des somatoformeries, etc. C'est quelque chose qui va constamment se transformer. Je trouve ça vraiment dommageable qu'on prive l'être humain de la plus grande leçon qu'il puisse recevoir de nos jours, c'est-à-dire les leçons de ce que les hystériques ont à nous apporter. Voilà.
Dans l'affaire de Charcot et de cette exposition de corps féminin atteint d'hystérie, il y a aussi une dimension extrêmement spectaculaire. Est-ce que c'est spectaculaire, c'est-à-dire manifeste et de impressionner les gens et les spectateurs qui étaient rassemblés. Est-ce que c'était quelque chose, ça, cette notion de spectaculaire dont il fallait se méfier pour vous?
Oui, bien sûr. D'autant plus que du temps de Charcot, on appelait ça la grande hystérie. Ça a été très photographié. Il y a une iconographie absolument remarquable qui existe là-dessus. Mais c'était cette époque-là qui nécessitait en fait cette chose spectaculaire. Moi, je voulais en fait rentrer avec le patient et la patiente qu'on suit sur quelque chose de moins spectaculaire que ça, justement pour pouvoir rentrer dans l'intime, c'est-à-dire de défaire la pensée que l'hystérique, c'est juste quelqu'un qui va être en train de péter un câble tout le temps, en train d'hurler, en train de se jeter en arrière. Mes hystériques sont finalement assez introvertis, sont des êtres assez timides qui chacun vont raconter quelque chose sur notre époque. Le jeune qui a du mal à rentrer dans le marché du travail aujourd'hui, on s'est toujours un petit peu foutu de lui, on s'est foutu de lui à l'école très certainement, on l'a mis sur des voies de garage, on lui a dit tiens, essaye de faire le pizzaiolo, on verra bien si ça marche, et puis il s'accroche petit à petit à son monde du travail, mais il y a quelque chose qu'il rejette quand même. C'est sa situation aussi sociale, mais aussi l'héritage qu'il a eu sur la sexualité par son père, par son grand frère qui est une espèce de guide démesuré de la sexualité envers lui. C'est un petit peu le cheminement du jeune Arthur. Et l'autre, la fille. Qui est une fille qui est adoptée, donc qui a été d'origine cambodgienne et qui se retrouve dans une famille du très manif pour tous du 16e arrondissement de Paris, et qui va aussi, on va lui enlever d'une certaine façon son identité à elle pour la formater. Et c'est ce formatage, en fait c'est le formatage sociétal qui fabrique aussi évidemment l'hystérie, autant que tous les traumas et tout ce qui est raconté par Freud et Breuer.
Vous faites un lien entre le théâtre en tant qu'art pratique et la maladie en général, parce que c'est quand même quelque chose qui a une histoire. Je pensais à Antonin Artaud, le théâtre et la peste.
Oui.
Il y a souvent un lien qui est assez mystérieux entre la maladie et le théâtre.
Oui, absolument. Je ne prétends pas faire du théâtre thérapeutique, mais peut-être pas loin quand même. C'est-à-dire que... en se disant que aussi il y a une forme de maladie dans notre société aujourd'hui, qu'il y a quelque chose de déréglé. Le théâtre peut aussi, à la fois apaiser, à la fois ouvrir des plaies et essayer d'avoir un rapport de cet ordre-là. Mais il ne faut pas que ce soit un rapport, prêchi-prêcha ou un rapport dogmatique. Il faut que ce soit constamment un rapport empathique et compassionnel, qu'on est tous dans le même trouble. Et effectivement, aussi, le thème du rapport médical, c'est-à-dire du thème du soignant au soigné, un quart des pièces de Molière est bâti là-dessus. Il y a beaucoup de choses... ça raconte aussi beaucoup de choses sur l'être humain, sur les rapports dominant-dominant. Enfin, voilà, c'est vraiment un lexique qui permet beaucoup de choses. Oui, mais je crois qu'effectivement, il y a de toute façon un rapport très fort entre le théâtre et la société qui passe par la maladie. Oui.
J'avais à faire un rapport sur ce que j'avais vu et appris chez Charcot, mais je fus mal reçu. Des autorités telles que Bamberger, le président, déclarèrent que ce que je racontais n'était pas digne de foi. Meinert me somma de rechercher dans Vienne des cas d'hystérie masculine, analogues à ceux que je décrivais, et de les présenter à la Société des médecins. C'est ce que j'essayais, mais les médecins des hôpitaux dans lesquels je trouvais de pareils cas se refusèrent à me laisser les observer et m'en occuper. L'un d'eux, un vieux chirurgien, s'écria « Mais mon cher collègue, comment pouvez-vous dire de telles absurdités ?» Hystérone veut dire utérus. Comment donc un homme pourrait-il être hystérique ? J'objectais en vain que ce dont j'avais besoin était la possibilité d'observer le cas, et non une approbation de mon diagnostic. Je découvris enfin, en dehors de l'hôpital, un cas classique d'hémagnesthésie hystérique chez un homme, et je le présentai à la Société des médecins. Cette fois, je recueillis des applaudissements, puis on ne s'intéressa plus à moi.
J'ai initié ce centre il y a un an. Parce qu'on était plusieurs à se faire cette réflexion, semblait que devant le mal, ce trouble qui t'assaille et te fragilise en ce moment, qu'on a réussi à nommer pour ne pas se raconter d'histoire, parce qu'il nous a semblé, on a convenu ensemble, que tu étais assez forte pour en assumer la définition médicale. Est-ce que tu es toujours d'accord, Anaïs ? Ça ne te fait pas peur ?
Je suis hystérique.
Non. Tu es atteinte de troubles somatoformes de conversion hystérique. Nuance.
Gérard Watkins, on écoute un extrait, là c'est la bande-annonce de votre spectacle Hystéria, et juste avant c'est une archive de 1963 où Michel Bouquet lit un des textes de Freud sur l'hystérie, où on entend justement cet argument avancé par Freud, l'idée que l'hystérie ne concerne pas uniquement les femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi découvert à la faveur de ce travail-là autour d'Hystéria, du spectacle ?
Oui, c'était aussi ma porte d'entrée sur le spectacle d'Hystéria, ma porte d'entrée sur l'écriture, était que l'hystérie racontait l'interminable histoire du sexisme. Que depuis le démarrage, où je crois que c'est même avant les Grecs, c'est carrément les Égyptiens qui avaient commencé à penser que les crises d'hystérie, c'était un utérus qui était vivant, un animal vivant à l'intérieur du corps et qui remontait, qui circulait, et d'où les premières prescriptions qui étaient soit de satisfaire la femme, de l'enfanter, soit, comme on le voit dans le spectacle, de mettre des urines et de la merde sous le nez pour faire descendre l'utérus et de mettre devant le vagin du basilic et du thym et des choses agréables pour faire descendre l'utérus. Et les hommes n'étaient pas hystériques, ils étaient forcément épileptiques, parce que l'épilepsie était le dialogue avec les dieux, et les femmes n'avaient pas le droit de dialoguer avec les dieux.
Alors que c'était la même maladie ?
Non, c'était pas la même maladie. Justement, ils ont commencé aussi à voir... c'est pas la même maladie, parce que... mais sauf que si une femme était épileptique, elle devenait hystérique, elle n'était pas... Voilà, c'est pas la même chose. Mais il y avait quand même, en tout cas, chez les Grecs, aussi une prémonition, ce qui était assez intéressant, ce qui est raconté dans le spectacle, qui était celui que la médecine, en fait, ne pouvait pas faire grand-chose, et il faisait appel donc à des prêtres qui essayaient de rentrer dans l'inconscient des patients, et donc et les faisaient allonger sur un divan, et c'est vraiment ce qui se passait. Et donc ils ont presque une espèce de prémonition de ce que pouvait être la psychanalyse aussi. Mais il n'empêche qu'ensuite, après, évidemment, à travers les âges, c'était toujours les femmes qui étaient hystériques. On sait ce qui s'est passé au Moyen-Âge, avec ce qui est aussi dit dans le spectacle et joué, le marteau des sorcières, donc le fameux Malus Mortificam, qui était grâce aux éditions Gutenberg, a pu circuler partout en Europe et participer à un féminicide énorme. Et dans lesquelles, évidemment, les femmes hystériques, puisque, par exemple, c'était exactement la même aiguille, en fait, qui servait à Charcot pour tester l'innervation dont étaient victimes les femmes.
Sur la main.
Sur la main, c'était exactement avec cette même aiguille que les inquisiteurs arrivaient à détecter si une femme avait un doigt innervé, c'est qu'elle était hystérique, enfin, donc c'est qu'elle était...
Et donc sorcière.
En tant que sorcière, voilà. Et donc toute cette longue histoire, en fait, du questionnement humain envers l'hystérie est passée par le biais d'identifier cette maladie comme étant féminine. Mais c'était ma première porte d'entrée parce que maintenant je trouve ça beaucoup plus complexe évidemment que ça, et que c'est aussi quelque chose sur le genre, sur le mélange de genres, qui raconte plus de choses que simplement ça. Mais par rapport à l'hystérie masculine, j'ai découvert vraiment des choses passionnantes. Notamment, comme chacun sait ou comme chacun ne sait pas, on pensait aussi que la première vraie fois que c'était reconnu chez les hommes, c'est la Première Guerre mondiale, avec les hommes qui revenaient du front en étant en état de choc total et avec des symptômes, paralysie, etc., comme s'ils avaient reçu l'obus, sauf que l'obus était tombé à 50 mètres et que c'était pas possible.
C'est ça, il n'y a pas d'origine physique de la maladie.
Non, il n'y a pas d'origine physique, c'est tout le mental. C'est-à-dire
c'est
que
le mental
c'est le mental le qui prend contrôle. Il prend entièrement contrôle. Il dit ça va plus bouger, et c'est pour ça que Charcot, en tant que neurologue, a pu tomber là-dessus. Et donc, on a dû définir ce que c'était que l'hystérie masculine à ce moment-là et avoir les tests pour pouvoir le prouver évidemment, renvoyer, les soigner les hommes et les renvoyer au front, mais aussi pour ne pas les fusiller et ne pas les accuser de lâcheté, parce que sans ça, c'était des simulateurs. Et il y a toujours un rapport entre la simulation, vu que c'est le cerveau qui contrôle et pas le truc réel, entre la simulation et l'hystérie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fascinant dans cette maladie-là. Et l'autre chose aussi sur laquelle j'ai commencé à lire, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport aux hommes du 19e siècle et tous les hommes qui souffraient dans les mines, dans des conditions de travail, tous les ouvriers qui avaient des souffrances de 18 heures de travail acharnées, etc. et tout ça, commençaient aussi à avoir des conversions. Et on n'a pas voulu le savoir, évidemment, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des arrêts maladie pour ces gens-là, et c'est aussi quelque chose qui a été étouffé dans le passé sur l'hystérie masculine. Voilà.
Est-ce que, à vous entendre parler, est-ce que vous direz que l'hystérie, c'est un sujet trop grand?
Oui, c'est un sujet immense. Oui, c'est un sujet immense. Bah, c'est la contemplation d'un mystère pareil, c'est, en tout cas, historiquement, c'est un sujet vraiment immense, oui.
Et pour résoudre cette crise, une des solutions du spectacle pour en tout cas aborder cette maladie, vous avez fait le choix de représenter un centre thérapeutique,
oui,
avec des psys,
oui,
qui sont de divers courants, enfin qui ont des approches assez différentes.
Oui, qui ont des approches différentes, oui.
Il vous fallait ça, l'idée de créer un centre pour pouvoir,
ouais,
parler cette maladie-là.
Il fallait se remettre en fait au travail dessus. Et se remettre au travail dessus, c'est ça qui était aussi intéressant et qui racontait aussi justement des choses sur la révolution féminine, c'est-à-dire que dedans il y a un analyse qui est plutôt freudien, et les freudiens, ils sont, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et en ce moment c'est évidemment une parole qui est à la fois reconnue comme étant brillante, mais qui est pas mal remise en question dans la psychanalyse. Il y a une jungienne, Et il y a une cognitive comportementale. Et ce sont des personnes, en fait, qu'on met pas dans une même pièce parce qu'ils vont se déchirer ou ils vont s'engueuler sur le sujet. Or, il y a qu'un seul endroit où ces gens de ces médecins, en fait, s'accordent, c'est sur l'hystérie, pour dire qu'on n'en sait pas, que c'est un mystère. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de les mettre ensemble dans un centre. Et puis pour moi aussi, ça crée du théâtre. Voilà, parce que si c'était un pensum et juste des gens qui discutent de l'hystérie, ce serait un spectacle de théâtre, enfin voilà ce que je veux dire, quoi. Un pensum, quoi. C'était vraiment tout ce qu'il fallait éviter. Et on a voulu en fait créer les patients en même temps qu'on créait les soignants. Donc par des systèmes d'improvisation que j'ai avant de me mettre à écrire, eh ben on cherchait d'abord le patient et ensuite après le soignant venait se compléter en miroir, parce que évidemment ce qu'il y a de drôle là-dedans, c'est qu'ils ont autant de troubles, ils ont l'air aussi tarés en fait que les hystériques. Et c'était pas du tout pour me moquer de la psychanalyse, parce que j'ai trop de respect pour cet art-là et sur ce que ça raconte en fait sur l'humanité. Et je trouve qu'il y a aussi un lien très fort entre la dramaturgie et l'analyse. Si vous suivez des réflexes de piste qu'ils ont, etc., la dramaturgie théâtrale est un peu pareille. Et donc ce centre-là, en fait, bah, il fallait qu'on assiste à une guérison en direct, une passerelle en direct.
Donc ils disent pas guérison dans le spectacle.
Ils disent pas guérison.
C'est de trouver une passerelle.
Ouais. Mais ça, c'est tous les liens aujourd'hui avec le marché du travail et tout ça. C'est-à-dire que ces fameuses passerelles dont ils parlent et ces fameuses remises en état. En fait, c'est pour ne pas dire le mot malade, donc il n'y a pas de guérison, etc. En fait, dans les cognitifs comportementaux, ils essayent en fait de prendre des gens et de les remettre dans le monde actif, en train de dire c'est bon, on sait qu'on peut pas vous soigner, mais on va vous remettre quand même dans le.
On peut
dans
vous
le,
rendre opérationnel.
On va vous rendre opérationnel, qui est la grande tendance aujourd'hui et qui est aussi pourquoi on a de plus en plus de mal avec la schizophrénie, avec plein de maladies dont on ne sait plus quoi faire maintenant, parce qu'on est en train de délaisser une grande part qui est l'écoute en fait du malade. Et pour moi, c'était vraiment la raison essentielle de ce spectacle, c'était de remettre remettre les oreilles en état, d'essayer de remettre nos oreilles en état, de pouvoir entendre ce que les gens ont à dire. À Paris, dans les rues maintenant, bah, si les SDF se font remplacer de plus en plus par des gens qui devraient être vraiment aussi soignés, il y en a de plus en plus. Et quoi, on se retrouve en fait à l'époque de Charcot, quoi. On est en train de se retrouver à l'époque du 19e siècle. Et ça raconte aussi cette chose-là. C'est un peu cette course contre la montre qu'il y a et le temps dont on a besoin pour pouvoir écouter, pour pouvoir évidemment soigner quelqu'un par l'analyse.
Et c'était remettre la parole au centre.
Oui, remettre la parole. Oui, bien sûr. Oui, c'est le dialogue et c'est tout un art du dialogue. Alors évidemment, pour le théâtre, c'est juste génial parce que c'est un art du défilé du dialogue. Et surtout, on voulait, et ça, c'était quelque chose qui était très important, qu'il n'y ait pas de poteau rose. On voulait pas qu'on puisse se dire, ah, tiens, c'est pour ça qu'il est hystérique. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'il y a une raison.
Ouais, il y a toujours cette espèce de vieux truc du théâtre psychologique. On dit, ah, mais c'est parce qu'en fait, il lui arrivait ça quand il était, c'est pour ça qu'il est comme ça. En fait, l'hystérie est un panel, il y a un panel de tellement d'événements, de tellement de magie et de mystère entre des corrélations, entre des événements, entre une main tendue par quelqu'un qui secourt une jeune Cambodgienne pour l'arracher d'un massacre et une main qu'on lui demande une main en mariage et l'innervation de la main, il y a des liens et ils sont très contradictoires, mais les deux existent. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui existent. Et il y a plein de choses qui sont en fait disséminées tout au long du spectacle. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que le spectateur peut vraiment être et emmener à participer et à choisir en fait, et aussi à choisir ce qu'il est, parce que par rapport à ça, parce que de livrer les clés d'une hystérie, c'est livrer en fait nos propres fragilités face à ce monde et de pouvoir s'interroger par rapport à nos fragilités.
Une phrase de Lacan qui est très simple, il dit « Notre expérience est entièrement fondée sur quelque chose qui ressemble beaucoup à la catharsis ». Alors, j'introduis tout de suite ce mot, puisque catharsis est un mot, comme on sait ou comme on ne sait pas, peu importe, qui vient d'Aristote, qui se traduit par tantôt purgation, tantôt par purification. Purgation, c'est un sens médical, c'est le lavement finalement. Purification, c'est un sens moral, on devient plus pur. Et la meilleure traduction qui est donnée par les bons traducteurs, c'est épuration, l'épuration des passions. Alors non pas l'épuration au sens horrible, mais le fait que le théâtre montre des passions, peint des passions. Et ça, mon Dieu, on peut dire depuis le début jusqu'à la fin, même si on appelle ça des sentiments, des affects, des drames, tout ce que vous voudrez, et essaye de les corriger, ou du moins de les apaiser, ou de les exciter au contraire. Et là, les discussions vont bon train depuis au moins Aristote jusqu'à nos jours. Et c'est l'idée que, très simple, qu'on trouve aussi chez Freud, lorsque Freud parle du théâtre, que les affects ont besoin de s'exprimer, de se déployer, de cracher. Il fait une comparaison très simple entre le fait qu'on éclate de rire, entre, après tout, aussi l'éjaculation, après tout ce qui est de l'ordre de l'éternuement, du rejet, de la décharge des pulsions, et auquel le théâtre, toutes opérations un peu médicales, un peu corporelles, un peu morales, un peu mentales, et finalement tout à fait esthétiques, auxquelles le théâtre donne lieu.
In amour des aimants entre là, les joignons, suspendu pour voir instruments à ta mine, nombreux incalculables. Matière looping the frappé improprement sur la saison. Taxa l'état de vapeur, siphon au demi-siphon du gaz, et ta ta voix là le parent vanté la siombe. Gauche.
France Culture, par les temps qui courent.
Seul.
Romain de Bec de Lièvre avec Gérard Watkins.
Bois. Forme de densité. Degré du gaz.
Gérard Watkins, on vient d'entendre une archive de François Regnault en 2016, où il expose ce lien, ce rapport entre le théâtre et la psychanalyse, sous le prisme de ce qu'il appelle la purgation, l'épuration, enfin la catharsis. Est-ce que c'est une notion qui vous a traversé l'esprit ?
Oui, bien sûr. La catharsis me traverse toujours l'esprit. Je m'en sers sur tous les spectacles. Voilà. Encore quelques auteurs à croire en cette notion de catharsis. Et alors évidemment c'est un lien, comme le dit Monsieur Regnault très fortement, quoi, avec ce que font aussi les analystes et leurs patients. Mais je crois vraiment beaucoup en de créer des liens, en tout cas très forts, par les mots, d'empathie, par des situations, par comment rendre la chose la plus touchante et la plus disponible possible aux spectateurs. De la rendre la plus nue possible au spectateur aussi, pour qu'il se passe d'une certaine façon une catharsis. Dans le spectacle, on assiste aussi à mais je vais pas vous spoiler ce qui se passe,
à quelque chose qui relève de l'ordre de l'expulsion.
Exactement.
Dans ce rapport-là particulier au spectateur, en fait, du fait que le spectateur voit cette expulsion-là, il y a un des dispositifs particuliers dans votre spectacle, c'est que souvent, le public est pris en charge. Enfin, il est nommé comme tel.
Oui.
C'est-à-dire, les acteurs disent, bon, ben voilà, on est là devant plein de gens.
Oui, oui.
Est-ce que c'est un dispositif qui qui a à voir avec ça, justement?
Oui, je crois que, enfin, ça a à voir et ça a pas à voir avec ça, parce que je pense aussi qu'on peut évidemment faire du catharsis avec un quatrième mur. On n'est pas obligé de le faire de cet ordre-là. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, j'ai toujours vraiment travaillé sur le rapport justement du quatrième mur et comment arriver à le casser ou pas, le rebâtir ou pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important au théâtre. C'est quelque chose de très important. Comment on nomme le spectateur, comment on l'invite à venir en soi. Et dans la direction d'acteur aussi, c'est quelque chose. Même quand j'ai un quatrième mur, il y a toujours à un moment donné, j'essaye de créer avec les acteurs. Et ça, c'est une chose que m'a aussi enseigné Michel Bouquet, qui était qu'on a entendu en début de l'émission, de créer une forme de cavité dans l'acteur pour qu'il puisse recevoir le spectateur à l'intérieur de soi, pour qu'il puisse jouer à sa place. Et cette notion-là, qui est vraiment très importante pour le jeu, est aussi présente quand on s'adresse en fait directement, évidemment, au spectateur. Et pour ce spectacle-là, je ne pouvais pas me dire que le quatrième mur existait. C'était quelque chose qui était absolument impossible. Et même d'une certaine façon, des scènes de restaurant qui devraient être des scènes plus intimes, on se débrouillait pour finalement se dire que les spectateurs étaient aussi assis à table à Pizza dell'Arte avec nous. Que dans la scène du procès médiéval, les gens ils sont pris à partie dans le procès. Et voilà, il y avait tout le temps en fait un renouveau d'une nécessité de s'adresser en fait aux spectateurs. Donc c'est vraiment une nécessité qui est particulière à ce spectacle.
Je reviens sur l'expression une cavité.
Oui.
Michel Bouquet, il enseignait ça.
Oui, de laisser de la place en soi pour que de laisser de la place une place vide en fait en soi. Pour accueillir le spectateur.
Avec l'idée que quand on joue, il est là.
Oui, c'est ça. Oui. On l'embarque avec. On lui laisse la place aussi pour jouer à notre place. Si un acteur joue tout, ne laisse pas le spectateur jouer aussi à sa place, il n'a aucun intérêt. L'acteur est intéressant quand il décide de ne pas jouer beaucoup de choses et de laisser en fait le spectateur le jouer à sa place.
Quel enjeu ça a été pour les comédiens, Gérard Watkins, d'incarner une forme de savoir psychiatrique, psychanalytique?
En fait, c'était d'emmagasiner le plus d'infos possible, de lire une bonne douzaine de livres de 500 pages. Donc ça, c'était vraiment la première. Et ensuite, après, de plus s'occuper du savoir. C'est-à-dire de ne pas se dire que nous, on a un savoir. En fait, il fallait que ces médecins ressemblent à des acteurs, ressemblent à des gens de théâtre, en fait. Que ça allait aussi parler du théâtre en tant que tel. Et qu'on n'avait aucun souci d'être réaliste dans ces médecins. Et d'ailleurs, c'est vraiment très chouette parce que il y a eu beaucoup d'analystes qui sont venus voir le spectacle et qui nous en ont remercié, en fait. Qui ont dit, c'est bien parce que, ça donne une très belle image de nous parce que c'est pas une image du savoir. C'est au contraire, c'est une image du, on sait pas et on est là pour chercher avec vous. Et que pour beaucoup de gens, il y a une espèce d'image du savoir tout le temps. D'une domination par le savoir et il fallait à tout prix que le spectacle ne soit pas dans ce sens-là. Mais en même temps, serve d'une certaine façon comme une forme d'éducation populaire aussi, simplement pour redonner en fait des notions
sur ce que c'est. Ça donne des notions quand même.
Oui, ça donne des notions, oui. Mais c'est important parce que c'est des notions qui ont été trouvées et c'est des notions qui sont assez... C'est des notions de langage, elles sont intéressantes, c'est intéressant d'apprendre ces notions de langage pour apprendre à mieux vivre dans ce monde, de vivre plus ouvertement, plus en éveil, de savoir que il y a des désirs qu'on a refoulés qui peuvent être terrés quelque part, que on a différents états, qu'on n'est pas sur, on ne vit pas sa vie que dans un seul état, on n'est pas stable, on a toutes ces différentes formes. Je trouve que c'est très instructif de pouvoir le dire et le redire parce qu'on nous martèle un peu le contraire, quoi. Non, il faut être comme ça, rationnel, etc. et tout ça. Donc, il y a aussi cette grande part aussi de poésie et de poétique et du monde des rêves qui est très importante et J'espère aussi que c'est une invitation, d'une certaine façon, à réinterroger les rêves et de réinterroger l'onirisme de ce qu'il y a d'irrationnel.
Ce serait du coup une certaine manière pour vous de, dans cette représentation du savoir et d'un certain savoir psychanalytique, de donner des notions et de laisser les gens avec.
Exactement. Oui. Oui, je trouve beaucoup de gens n'ont pas ces notions. Hein. Des gens qui vont mal ne vont pas aller se faire aider à un moment donné parce qu'ils ont peur d'une espèce de rapport de jugement, de savoir. Or, si on lit toute cette grande révolution qu'est la psychanalyse, ça donne des clés de lecture qui sont incroyables. Ça donne des clés de compréhension de lecture et je crois aussi des clés sociétales. Alors ça, c'est beaucoup plus risqué de rentrer dans des interprétations sociétales, on va dire analytiques et sociétales. Mais il y a une des choses que j'ai lues dans les recherches qui m'avait vraiment pas mal plu, qui était que la société ne créait pas du refoulé, que c'était le refoulé qui créait la société. Donc la fabrique, le narratif fictif, on va dire, de la société dans laquelle on vit, qui est une fiction, qui est une narration, a été créé par du refoulé. Voilà, c'est une notion que je trouve assez intéressante.
Je suis pas sûr de comprendre.
Alors, le refoulé, on va dire, tiens, la société, comme elle est très stricte, elle va créer du refoulé. Ah ben, je refoule telle ou telle chose.
Des tabous, des choses comme ça.
Voilà. En fait, de se dire que, au contraire, il y a une fabrique de l'inconscient, de l'inconscient de l'être humain, qui va fabriquer une société, un narratif pareil, par son refoulé. Voilà.
C'est d'inverser. Qui va être un processus mental.
Qui va être un processus mental. Voilà. Et qui va donner cette espèce d'illusion de monde dans lequel on vit. Dans l'illusion du monde dans lequel voilà il y a Trump et Poutine quoi voilà c'est une illusion c'est une forme de
la domination
ouais c'est ça c'est une forme de narration je crois que les violences conjugales a été un spectacle qui a pu donner le langage en fait de la domination quel est le langage qui est utilisé par un être pour pratiquer une emprise et donc aussi d'une société comment une société peut pratiquer une emprise. Et ben de même, dans ce spectacle-là, il y a des éléments libérateurs de langage, de comprendre des langages pour tout d'un coup pouvoir analyser, avoir des grilles aussi personnelles, quoi. C'est-à-dire qu'on peut inventer sa propre fiction analytique, on peut inventer ses propres modes de constellation intérieure, de rapprochement entre telle ou telle chose, et trouver une poétique plus forte.
Je n'aime pas beaucoup la cervelle en été, salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés, à garder les yeux clos. Il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les poses qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadaptée. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés, susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant, c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadapté. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés, ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot. Y a pas de quoi rire. Je suis inadapté. Je suis inadapté.
Moi, je fais rien. Je regarde les acteurs travailler. Je conseille vraiment le métier de metteur en scène à tout le monde parce que ça consiste à regarder travailler les autres. C'est un peu comme ce qu'on disait des ponts et chaussées à une époque où il y en a un qui creuse et deux qui regardent. Mais je trouve que le metteur en scène, je combats beaucoup l'idée de direction d'acteur. Je pense que c'est l'acteur qui est au travail. Et c'est, s'il tombe sur une embûche, un caillou, un trou, il se bloque, le metteur en scène doit non pas lui dire ce qu'il faut faire, mais le ramener au carrefour précédent. Le ramener en arrière et lui, c'est l'acteur qui va trouver. J'ai vraiment l'idée de l'inspiration de l'acteur, de l'intuition de l'acteur. L'acteur doit avoir confiance en lui.
Gérard Watkins, on écoute après Brigitte Fontaine, l'inadapté, une archive de Valère Novarina, une masterclass de France Culture, c'était en 2017, où il parle de la direction d'acteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous qui êtes l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle? L'idée
oui,
qu'il faille laisser faire.
Oui et non, oui, évidemment, il faut laisser faire. Moi, j'ai vraiment un travail, très long en direction d'acteur, parce que ma direction d'acteur, en fait, elle commence avec l'écriture. Avant, j'écrivais mes textes tout seul dans mon coin, et ensuite, après, j'emmenais par des improvisations, par plein de choses, par plein de directions, en fait, l'acteur a incarné le texte. Pour moi, la liberté de l'acteur est une chose absolument fondamentale, donc là je rejoins, c'est-à-dire que on a une tendance évidemment à penser que les acteurs sont des animaux de cirque avec une suite de rendez-vous à accomplir, etc., une suite de figures, ce qui est totalement faux. Il faut qu'un acteur soit libre et donne l'illusion en tout cas d'une immense liberté sur le plateau et d'une invention constante. Mais ça se travaille quand même. On peut pas juste laisser faire parce que c'est en fait il a aussi besoin de beaucoup de retours et beaucoup d'accompagnement. Je crois. J'estime quand même diriger les acteurs, c'est-à-dire de les accompagner le plus fortement possible dans cette liberté. Mais ce que j'ai fait pour que ce soit possible et que d'obtenir ce résultat-là, c'est que maintenant je les inclus dans le processus depuis le début. Donc ils sont à l'origine du projet. C'est-à-dire c'est
de l'écriture.
C'est-à-dire que c'est eux qui vont nommer les personnages. Ils vont aller chercher par des bases d'improvisation leur origine. Ils savent tout sur leurs personnages, où ils sont nés, quels étaient leurs rêves, quels étaient leur premier amour. Ils ont vraiment une espèce de grande construction, quoi, qui est faite comme ça. Et ensuite, après, moi, je vais écrire le texte. Et quand ils vont revenir vers le texte, ils vont très vite voir l'origine. Ils vont sentir quelque chose dans lequel ils ont fortement participé. Et aussi participé à la réflexion. Par exemple, Julie Denis. Au départ, quand je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, ce serait bien que tu joues, par exemple, une lacanienne. Il dit, oui, mais je vais pas pouvoir le sentir de jouer une lacanienne. Moi, tu sais, c'est Jung, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Tu vas pouvoir partir sur Jung et sur les rêves autant que tu veux. Et voilà. Donc, il y a aussi une forme de participation humaine qui fait partie de la direction d'acteur.
Une des choses qui apparaît dans le spectacle Hystéria aussi, dans la particularité du jeu d'acteur, c'est le fait de jouer des patients. Oui. C'est-à-dire de jouer des gens qui sont atteints physiquement de paralysie. Comment ça s'est passé, ça?
Ça a été très long parce qu'il fallait que ce soit ressenti, en fait. Il fallait qu'ils trouvent leur conversion. Il fallait pas que ce soit une fabrique. Il fallait qu'ils ressentent l'endroit où ça se passait dans leur corps. Donc, c'était vraiment d'être à l'écoute de leur corps au départ. Donc, on a passé beaucoup de temps à essayer d'écouter, de voir où est-ce que ça pouvait se loger. Voilà. En tout cas, on a tout inventé, hein. C'est de la fiction à l'état pur, hein. Tout ce qui se passe avec les malades et tout ce qui se passe avec les médecins, c'est tout inventé. On n'est pas parti de cas précis, on n'est pas parti d'exemples précis, ni même d'observations, on va dire. Donc, il fallait que ça vienne de l'intérieur.
Inventer un symptôme.
Inventer un symptôme. Ouais.
C'est particulier.
Oui, c'est très particulier.
Les autres scènes, Gérard Watkins, dans le spectacle qui sont particulières, c'est les scènes historiques où on remonte donc à la Grèce ancienne, au Moyen-Âge et à une époque qui pourrait être l'époque moderne, enfin le 17e ou
oui, les Anglais, oui.
Où le traitement est particulier, le traitement historique et notamment dans le choix des costumes et un parti pris, je dirais assez fort. Alors, je sais pas trop comment le qualifier, mais il relève davantage aussi de scènes comiques, c'est les scènes où le public rit. Oui. Plus qu'aux autres scènes. C'était une manière pour vous de créer de la distance historique.
Oui, bien sûr.
Avec cette époque, ces époques reculées.
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est une façon de créer du théâtre aussi, quoi. C'est-à-dire du théâtre grec, du théâtre, le théâtre de la chasse aux sorcières suédois, c'est vraiment une espèce de théâtre très bergmanien, très Dreyer aussi, très comme ça. Donc avec, moi j'adore les multiformes chez les acteurs. J'aime aussi beaucoup le chant. Donc pour le théâtre grec, pour eux, c'était de pouvoir déclamer, de pouvoir aussi d'être en transe, de pouvoir atteindre des choses délirantes. Mais c'est aussi une mise à distance. Hein. C'est aussi évidemment quelque chose de très très ludique. J'aime beaucoup l'humour. Moi, j'arrive pas à travailler sans humour. Quand je suis en train de pleurer de rire intérieurement, j'arrive à peu près bien écrire. Donc c'est pas l'optique principale, mais en tout cas ça nous accompagne tout au long, quoi. Moi, je peux pas résister à un bon rendez-vous de théâtre et de comédie. Hein. Alors évidemment, comme vous avez dit, il y a les cinq portes, il y a les entrées et les sorties. Bah, c'est vraiment du théâtre à fond. Hein. C'est fait aussi pour avoir des situations aussi absurdes et qui sont très drôles. Et les patients aussi arrivent à faire. Enfin, pour moi, à chaque fois, je ris quand quand il y a Anaïs qui rentre et qui dit que la douche qui a été faite pour les handicapés est trop grande pour elle et qu'elle aimerait qu'on fasse que sa douche soit plus petite. Je trouve que c'est un humour qui participe aussi de leur subversion, de leur rapport au monde qui est totalement décalé.
J'avais pas fait le lien avec l'histoire du théâtre. Enfin, sous la Grèce antique,
au
Moyen-Âge, et à la période classique. C'était une manière pour vous aussi de reparcourir cette époque-là.
Ah bah oui, et puis celui du 18e, là, chez les Anglais, qui est vraiment l'époque où en fait, l'hystérie n'est plus sexuelle, mais est mentale, donc les vapeurs remontent le long du corps et deviennent, bon, c'est le siècle des Lumières, etc. Enfin, on commence à réfléchir de façon un peu délicieuse, et puis il y a tout ce rapport à la mélancolie aussi, et je l'écris en vers, hein, je l'écris en alexandrin, ce passage, quoi. Donc c'est pour moi le plaisir absolu de pouvoir écrire des alexandrins et de se dire bah le théâtre est libre, en fait, hein. Moi, je peux écrire des alexandrins et basculer, sortir des beaux costumes voilà, et de les faire arriver, ressortir aussi. Le théâtre a besoin de liberté. Le théâtre a vraiment besoin de beaucoup de liberté. Ce n'est pas un endroit de formatage. C'est un endroit où ceux qui l'écrivent doivent se sentir libres d'oser faire des choses, d'oser aussi remontrer ce qu'il y a de très beau dans le théâtre, très beau dans les personnages, dans les excès, dans les narrations, dans les contes, de pouvoir synthétiser cette histoire de rétrécissement de pénis médiéval. Je trouve ça délicieux, quoi, aussi, quoi, de pouvoir réinventer des histoires comme ça. C'est un hommage aussi au théâtre, quoi, que j'aime plus que tout.
Il est libre, mais il est aussi d'une certaine manière simple. C'est-à-dire qu'il y a, dans votre spectacle, il n'y a pas des décors impressionnants, il y a ces cinq portes, il y a une forme aussi de simplicité.
Oui, oui. J'aime qu'on puisse imaginer. J'ai une certaine rigueur esthétique. Je déteste la vidéo au théâtre. Je trouve ça insupportable. Je déteste les acteurs avec les micros HF parce que on n'entend pas la grain de leur voix. Donc voilà, j'ai une certaine règle esthétique de rester dans une simplicité et de rester aussi juste avec l'acteur qui fabrique la lumière et la musique. Voilà, c'est vraiment les liens les plus forts et les plus gutturales et tripales qui existent. Et c'est pour moi le théâtre, il se passe à cet endroit-là, pas dans la technologie.
Est-ce que vous avez déjà observé Claude Régis pendant une représentation?
Pendant une représentation ou pendant une répétition?
Pendant une représentation, parce qu'il est toujours présent.
Il est toujours présent, au comble de l'angoisse. Il se met quelque part en haut. Et il est vraiment extrêmement angoissé. Et chaque fois, le spectacle est différent. Et il sait instantanément comment... ce qui est très curieux, c'est qu'il sait tout de suite comment ça va être. Rien que la façon dont les acteurs entrent en scène. Il sait comment ça va être. Mais je n'ai jamais assisté, sauf une fois, à une répétition où j'ai lu les gens déraisonnables à côté de l'énorme Depardieu, qui était absolument adorable et qui me regardait en rigolant, en lui disant que t'as encore à travailler pour devenir acteur. Ça. Et c'était assez, c'est la seule fois où j'ai assisté à un bout de répétition. Il veut absolument pas qu'on soit présent, que son travail est tellement difficile, est une espèce de... Tous les acteurs sont en train de gratter le bloc de ciment que quelqu'un d'extérieur dérangerait. Ça. Malgré notre amitié, je n'ai jamais assisté à une répétition. Mais c'est vrai qu'il est toujours là. Et il dégage une espèce d'angoisse, d'ailleurs. Quand on est près de lui au théâtre, on sent cette angoisse. Pour lui, c'était une épreuve, chaque fois.
Gérard Watkins, on vous fait écouter une archive, un souvenir de Georges Arthur Goldschmidt sur France Culture, surpris par la nuit, l'émission en 1999, où il parle de Claude Régis, qui est constamment dans la salle. Et quand je suis allé voir le spectacle Hystéria au Théâtre de la Tempête, vous étiez dans la salle aussi.
Oui.
Vous y êtes tous les soirs?
J'y suis tous les soirs, sauf si j'ai un empêchement professionnel, mais sans ça, je vais y être tous les soirs, oui.
Pourquoi?
Parce que il y a, la même raison que Claude Régis est dans la salle. Et, c'est-à-dire que la première fois où j'ai vu le travail de Claude Régis, c'était au conservatoire et j'étais assis au fond de la salle. Et il y a un moment donné où j'ai senti une main au-dessus de moi. Je comprenais pas, et j'étais en train de voir, je crois, c'était Valérie Dréville avec du riz de sauce, bref, un pur petit chef d'œuvre. Et puis, tout d'un coup, je sens une main au-dessus de moi, et puis je me retourne, et puis c'était Claude Régis qui était, en fait, en train de sentir que j'étais en train d'apprécier, en tout cas, qu'il se passait des choses, en mon fort intérieur, et il était là avec sa main, quoi, comme ça, au-dessus de ma tête, et une main tendue vers ce qui se passait sur le plateau. Et j'aimais beaucoup la vitalité de ce que c'était, et ensuite, après, j'ai eu la chance de travailler avec lui à trois occasions différentes, qui étaient évidemment très, 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 très difficiles. Mais je sentais aussi dans son regard quelque chose de l'essence de ce qu'il y avait de profondément vital, de garder la vie, c'est-à-dire la vie selon son travail, qui est un mélange de formules inexplicables en peu de mots, mais de garder cette tension-là. On avait l'impression que ça pouvait pas s'éteindre tant qu'il est là devant. Et mon travail est différent sur le plateau parce que je ne travaille pas de la même manière, mais je travaille aussi sur d'une certaine façon sur la multiplicité et l'intériorité aussi de l'acteur. Et j'ai besoin d'être là pour sentir à quel point c'est différent tous les soirs. Et c'est fondamentalement différent tous les soirs. D'autant plus quand ils sont en train de s'adresser aux spectateurs, c'est-à-dire que c'est le public aussi, selon ses réactions. Et c'est pas seulement les réactions de rire, hein, parce que ça, c'est toujours, on sait très bien que le rire, ça peut circuler, quoi. Mais ça va vraiment dépendre beaucoup de leur capacité, de leur volonté aussi à rentrer dedans, à entendre. Et voilà, donc il faut que je sois là, quoi. Voilà.
Puis le public crée une atmosphère différente chaque soir. Oui, au-delà des réactions, oui, de rire ou des choses comme ça.
Oui.
C'est dans l'air.
Oui, c'est dans l'air. C'est quelque chose de très palpable. Ce lien secret, il n'y a qu'au théâtre que ça existe. Cette espèce de lien secret de ce qu'il y a dans l'air, l'espèce de surface qu'il y a entre les spectateurs et les acteurs. Il y a quelque chose au milieu. C'est une espèce de grand ballon invisible qui devrait être plein tout le temps de plein de choses de cette rencontre. Et c'est cette chose-là qu'on suit, quoi. Quand on sent que cette chose-là n'est pas là, bah, même si le spectacle était bon, bien reçu, à peu près carré, bah, on est triste parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas produit.
Et ce serait un sentiment, comme dit Georges Arthur Goldschmidt, d'angoisse, vraiment?
Je me suis calmé, moi. Je me suis calmé parce que je suis vraiment avec... surtout depuis que j'ai vraiment plus du tout de notion de rendez-vous pour eux. C'est-à-dire de, à partir du moment où le rendez-vous est vraiment leur sincérité, leur présence, leur vulnérabilité, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Et je suis rassuré parce qu'ils sont sur ce chemin-là. La seule chose qui peut m'angoisser, c'est que tout d'un coup, ça soit bétonné, qu'ils aient peur, et que tout d'un coup, ils bétonnent la représentation. Et ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement angoissant. Mais à partir du moment où vous êtes...
Bétonné, ce serait quoi?
Oh, c'est de blinder le jeu, quoi.
Être dans des rails.
Oui, c'est d'être dans des rails, c'est d'assurer. Et la contradiction de l'acteur, c'est qu'il faut qu'il assure. Parce qu'il faut qu'il assure quand même, évidemment. Évidemment, il est en train de y représenter, mais il faut qu'il retraverse une fragilité, il faut qu'il retraverse le fait de donner l'illusion, en tout cas, qu'il est en train de refaire ça pour la première fois, qu'il est aussi vulnérable et qu'il n'est pas en train de pré-mâcher, de tout mâcher un travail et tout bétonner un travail et de faire son chien de cirque, quoi, parce que c'est pas intéressant.
Vous souhaitez pas faire publier vos textes ? Pour vous, c'est vraiment des textes de théâtre ?
Moi, je souhaite faire publier mes textes. J'écris pour le théâtre, mais c'est de la littérature à partir du moment où c'est écrit. Donc oui.
Pour vous, c'est de la littérature à partir du moment où c'est écrit.
Oui, c'est écrit. Le théâtre est une forme de littérature. Les grands auteurs, Shakespeare, il écrivait pour le théâtre. Molière, il écrivait pour le théâtre. C'est de la littérature. Hein. C'est une forme de littérature autant que le roman. Il n'y a pas de raison. Je crois vraiment qu'on doit ouvrir le dossier des auteurs de théâtre. C'est des nécessités de retour dramaturgique, de narratif sur notre monde, et que c'est pas juste parce que c'est écrit pour le théâtre que c'est pas de la littérature.
Merci, Gérard Watkins.
Merci beaucoup.
Hystéria, c'est le titre du spectacle que vous avez écrit et mis en scène. On peut le voir au Théâtre de la Tempête, c'est à la Cartoucherie de Vincennes, jusqu'au 14 avril. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Guillaume Ledu. Lise-Marie Barré était à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier et Valentin Rémy qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Métabolisme absorba. Lips. Back on the